VOA Afrique, les infos. À Washington.
Au micro, Nani Talani, 21h en temps universel, bienvenue à ce journal. En Côte d'Ivoire, suspension du procès de Simone Gbagbo, l'ex-première dame ivoirienne, jusqu'au 3 novembre, suite à son refus ce mardi de comparaître au tribunal d'Abidjan, où elle est jugée pour crime contre l'humanité. Madame Gbagbo dit avoir agi sur le conseil de ses avocats qui avaient annoncé la veille qu'ils suspendaient eux aussi leur participation en raison de l'impossibilité de faire témoigner certaines personnalités. Plus de détails sur la décision de la défense de Madame Gbagbo avec Arzuma Compaoré.
Selon le procureur général Ali Yeo, Madame Gbagbo a fait dire qu'elle ne pouvait pas venir à la barre en conformité avec la décision de ses avocats de suspendre leur participation. Le juge a donc suspendu le procès pour le reporter au 3 novembre, mais rien ne dit que la situation aura changé d'ici là. Pour Maître Ange Rodrigue Dadje, avocat à la défense, c'est au juge de prendre leurs responsabilités. Les avocats de Mme Gbagbo avaient demandé hier à entendre Guillaume Soro, actuel président de l'Assemblée nationale et ancien chef de la rébellion, Jeannot Kouadio-Ahoussou, ancien premier ministre, et bien d'autres personnalités qu'ils jugent indispensables à la manifestation de la vérité. Cette requête a été rejetée par le juge. Les avocats de Mme Gbagbo ont donc suspendu leur participation. Madame Gbagbo comparaît devant la cour d'assises d'Abidjan. Elle est accusée de crimes contre l'humanité. L'ancienne première dame purge déjà une première peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État.
C'était pas Arzuma Compaoré, mais plutôt Anastasie Toudjéché. En Guinée, les accords signés le 12 octobre à l'issue du dialogue politique divisent la classe politique. Certains partis de l'opposition dénoncent le projet de modification d'une disposition de loi sur les élections locales et décident de se faire entendre à l'Assemblée nationale. Au Mali, le parti au pouvoir, le Rassemblement pour le Mali, s'est donné un nouveau chef, Bokary Treta, en vue des élections municipales de novembre, le premier scrutin dans le pays depuis l'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2013.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Reprise des activités ce mardi à Bangui, la capitale centrafricaine était paralysée hier par une journée ville morte, observée à l'appel de la société civile pour exiger le départ de la MINUSCA du pays. Le point sur place avec notre correspondant Freeman Sipila.
La circulation a repris sur les principales artères de Bangui. Les marchés ont rouvert, de même que les institutions bancaires et stations-service. Seule la reprise des classes était encore perturbée. Les parents n'ont pas voulu libérer leurs enfants pour se rendre dans les écoles. Pour la société civile, la journée d'hier a été une réussite malgré les morts et les blessés enregistrés. Hommes politiques et leaders communautaires sont unanimes sur l'expression du ras-le-bol du peuple, mais sont toutefois en désaccord sur la demande du retrait de la MINUSCA. Pour Parfait Onanga Anyanga, chef de la MINUSCA en Centrafrique, exiger le départ de la mission onusienne est une demande inappropriée. Sur l'incident meurtrier du lundi impliquant les casques bleus, M. Onanga a annoncé l'ouverture d'une enquête mixte. Le bilan officiel de la journée ville morte de ce lundi fait état d'au moins 4 morts et 14 blessés, dont 5 soldats de l'ONU. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Et c'est dans ce contexte de violence que la France dénonce les provocations et attaques contre la force de l'ONU en Centrafrique. Paris, qui va mettre fin à l'opération Sangaris à la fin de ce mois, réaffirme tout son soutien à la MINUSCA. L'Union des syndicats du Tchad a décidé d'observer une grève sèche, même dans les hôpitaux, après 2 mois d'arrêt de travail avec service minimum. Sur la liste des revendications, les arriérés de salaire des mois de septembre et octobre, le 13e mois pour tous les travailleurs, les pensions des retraités, les subsides des communautaires, la bourse des étudiants et surtout l'annulation des 16 mesures prises par le gouvernement pour geler, entre autres, les primes et indemnités de recherche des enseignants-chercheurs. Génocide rwandais, le procès en appel de Pascal Simbikangwa s'est ouvert aujourd'hui devant les assises de Bobigny près de Paris, 2 ans après sa condamnation à 25 ans de prison. Il s'agit du premier Rwandais condamné en France pour sa participation au génocide de 1994 au Rwanda. Présidentielle américaine, plus que 2 semaines avant l'élection du 8 novembre, la candidate démocrate mène dans les sondages et fait principalement campagne pour les démocrates, briguant des postes législatifs. Pour sa part, le républicain Donald Trump prédit qu'il lui fera mentir les sondages avec une surprise dans les urnes digne du Brexit. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
English USA vous présente African Voices in Conversation, des conversations en anglais qui ont attrait à la vie quotidienne au Sénégal. Pour télécharger ces leçons, allez sur le site internet www.lavoixdelamérique.com, cliquez sur « Apprenez l'anglais » et retrouvez les leçons d'anglais spéciales Sénégal. Mathieu a été l'heureux gagnant du gros lot à la loterie nationale de son pays. Il va raconter sa vie d'alors au journaliste Benjamin. Il évoquera aussi sa vie actuelle et exprimera des regrets. Écoutons l'ancien millionnaire et le journaliste. Vous répondrez vrai ou faux aux deux énoncés que vous allez entendre. 1. L'émotion avait rendu Mathieu fou. 2. Son logeur le priait de rester. Vous répondrez ensuite à ces trois questions. 1. Mathieu se rappelle-t-il quand il a gagné à la loterie? 2. Comment Mathieu s'est-il senti après son gain? 3. Qu'est-ce qu'il a acheté avec l'argent gagné? Vous apprendrez enfin comment exprimer des actions au passé en écoutant des phrases au passé ou « past simple » en anglais. Écoutons l'ancien millionnaire et le journaliste.
When was it? I mean, when did you win the lottery?
It happened on Friday, the 13th, in 2003, I think. Perhaps it was in 2002 or in 2004, maybe.
How did you feel?
I felt crazy for days and days.
Crazy? Why would you feel crazy? Was it very emotional?
Yep, lots of emotion, lots of happiness, lots of everything.
Can you tell me why?
Because it was so sudden and so good.
So what was the first thing you did with the money?
I bought my own house, a big house. When I moved out, the landlord was begging me not to go.
What else did you buy?
Furniture, nice furniture.
What else?
I replaced my old car. I went and bought a big German car.
Merci. Did you buy a Mercedes?
No, it was a BMW, young man.
Where did you keep the money?
In my pocket, in my bag, at the bank. For once in my life, the bank manager was running after me instead of me running after him.
That sounds great. So what is the situation today?
Different, young man. But that is an old story.
Why?
At first, my life was great. Now, I have nothing but trouble. Trouble with the landlord, trouble with the bank, trouble with my friends.
Even with your friends?
Well, you know what they say. No money, no friends. Trust me, I know.
Nous avons entendu dans cet entretien Mathieu parler de sa vie passée et de ce qu'il vit à présent. L'énoncé 1 est faux. L'émotion a rendu Mathieu fou. L'énoncé 2 est vrai. Son logeur l'a prié de rester. Voilà les réponses aux questions. 1. Mathieu se rappelle-t-il quand il a gagné à la loterie? Non. 2. Combien de voitures a-t-il acheté? 1. 3. Qu'est-ce qu'il a acheté avec l'argent gagné? Une maison, des meubles et une voiture. Et si vous auriez gagné à la loterie, qu'est-ce que vous achèteriez avec l'argent gagné? Répétez ces phrases dites par Mathieu.
It happened on Friday, the 13th. I replaced my old car.
Répétez aussi. He called the bank manager. We listened to Matthew's story. Ces phrases expriment des actions passées au simple past avec des verbes réguliers. Benjamin aussi a posé ses questions en utilisant également le simple past. Répétez ces questions.
When did you win the lottery? How did you feel? What else did you buy?
Répétez aussi. Where did the students go? Why did the music stop? Comme Benjamin, nous avons utilisé dans ces questions « did » suivi du sujet et suivi de l'infinitif sans « to ». Nous connaissons maintenant l'histoire de Mathieu. Vous avez entendu « vrai » ou « faux » à des énoncés. Vous avez répondu à des questions. Vous avez appris à utiliser le « simple past » pour exprimer des actions passées et vous poser des questions. Pour plus de renseignements au sujet des cours d'anglais, Learning English, allez au site internet suivant à americanenglish.state.gov ou à voalearningenglish.com. Welcome to Business English. Bienvenue à notre émission consacrée à l'anglais commercial aux États-Unis. Dans ce programme, vous participerez à des voyages d'affaires, à des conversations téléphoniques, à l'échange de messages e-mail et à des interviews. Au micro, Michel Joseph. Deux questions d'étiquette dans le milieu des affaires. Première question, les Américains dans les milieux d'affaires utilisent-ils leur prénom ou leur nom de famille?
Do Americans usually use their first name or last name in business?
First name, c'est le prénom. My first name is Michelle. Last name, nom de famille. My last name is Joseph. What is your first name? Quel est votre prénom? À vous de me répondre. What is your first name? What is your last name? Quel est votre nom de famille? Répondez-moi. What is your last name? Comme vous allez entendre, pour Gary, c'est une question difficile.
This is a difficult question. To be safe, use the name that the other person gives you.
This is a difficult question. C'est une question difficile. To be safe, use the name that the other person gives you. Pour être sûr de ne pas faire une gaffe, to be safe, donnez-lui le nom qu'il ou elle se donne, le prénom ou le nom de famille. Gary dit, quand il se présente, Please, call me Gary. Veuillez m'appeler Gary. Please, call me Gary. C'est ainsi que vous donnez la permission à l'autre personne de vous appeler d'une certaine façon. Écoutons la conversation qui suit à propos de la première question.
Hi, Elizabeth.
Hello, Gary. Our listeners have sent in some email questions, Gary. Our first question is, do Americans usually use their first name or last name in business?
Well, this is a difficult question. To be safe, use the name that the other person gives you. I always say, please call me Gary.
Gary dit, I always say, je dis toujours, always. I always say, please call me Gary. Littéralement, s'il vous plaît, s'il te plaît, appelle-moi Gary. Appelle-moi Gary. Please call me Miss Joseph. Please call me Mrs. Joseph. Ce qui nous amène à la prochaine question d'étiquette. Elizabeth demande à Gary, When speaking with women in business, quand on parle à des femmes dans un contexte d'affaires ou professionnel,
When speaking with women in business, when should we use Miss, Mrs. or Ms?
When should we use, quand doit-on se servir de? When should we use Miss, Mrs. or Ms? Miss, mademoiselle, ou, comme le dit Gary, for single women, pour les femmes célibataires. Single women, les femmes célibataires, miss. Ou bien, Mrs., madame, for married women, pour les femmes mariées. For married women.
Well, miss is for single women, Mrs. is for married women.
Ou encore, Ms. Un mot nouveau qui est neutre et n'implique pas le statut de célibataire ou de marié à la femme en question.
Ms. is easier to use than Mrs. or Miss because you don't have to know whether or not a woman is married.
Écoutez la conversation qui suit.
Our next question is, when speaking with women in business, when should we use Miss, Mrs. or Ms.?
Well, Miss is for single women, Mrs. is for married women. Ms. is easier to use than Mrs. or Miss because you don't have to know whether or not a woman is married. I always use Ms. because with Ms. I usually don't offend people.
What do most American women in business prefer?
I believe that most American women prefer Ms.
Thank you, Gary.
Finissez la phrase. Vous allez entendre le début et vous devez terminer la phrase. Écoutez et finissez la phrase.
Some people use their first name in business, but others prefer to use their last name.
Le nom de famille.
They prefer to use their last name.
Le nom de famille.
Most American women prefer to be addressed as Ms. They prefer to be addressed as Ms.
Ms, c'est neutre.
In the past, people used to address all married women as Mrs.
Et c'est tout pour cette leçon de Business English, l'anglais commercial. That's it for today. Until next time, à la prochaine fois. Au micro, Michel Joseph. Hello and welcome to lesson number 48 of English USA. Ici Michel Joseph à la Voix de l'Amérique. Bienvenue à la leçon numéro 48 de English USA. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de Martin Lerner et de son fils Alan. Ils veulent acheter des chaussures et une chemise dans une boutique de vêtements pour hommes, a men's store. Vous apprendrez à décrire ce que vous voulez acheter. English USA est diffusé en direct de Washington. Au micro, Michel Joseph.
Hi, Dad. What are you doing?
Waiting for your mother and Sue.
When are they coming?
At 2:00.
You're early. Come with me.
Where?
I want to buy a pair of shoes.
Where are we going?
Right here.
What kind of shoes do you want?
I need dress shoes.
I like these shoes. Do you like this kind?
No, they're for old men.
May I help you?
I want to look at some shoes.
What color?
Black.
Do young men wear black shoes?
Sometimes.
What kind of shoes do you want? Casual shoes?
I want dress shoes, but a little casual.
He doesn't want old men's shoes.
I see. Do you like these? We have them in brown and black.
They're okay.
Let's try them for size. What size do you wear?
Size 11.
Your foot looks bigger than size 11. I'm going to bring a pair of 11.5 too. Please sit down.
Do you like these?
They look too casual.
Let's try these.
Okay.
How do they feel?
They're too small. Do you have a bigger size?
Yes, I brought a pair. Try these.
That's good. It feels good. It's just right. What size is that?
Size 12.
Size 12? Let's try something else.
Tell me what you like.
I want black shoes. I want a dress shoe to wear at night.
A little casual.
Yes, a little casual. But I don't want a heavy shoe.
This one?
No, it's too big. It looks big.
Size 12 is a big shoe.
I know, but this one looks big.
You want dress shoes that are black, a little casual, but not big and heavy.
Yes, that's right.
Do you like this shoe?
It's green.
I have black ones.
Okay, let me try that one.
Vous avez déjà appris certains mots dont on se sert pour décrire des vêtements, par exemple big, black. Notez aussi que pour les chaussures, par exemple, size 11, taille 11. I want size 11 shoes. Je veux des chaussures taille 11.
I want black shoes. I want dress shoes. I want size 11 shoes. I don't want size 12 shoes. I don't want heavy shoes. I don't want big shoes.
Répondez maintenant aux questions de Martin Lerner. Commencez par I want. Par exemple, I want shoes. Ou bien, I want black shoes. Donc, vous répondrez à ces questions. Il vous demandera, par exemple, What color of shoes do you want? Vous voulez des chaussures de quelle couleur? À ce moment-là, vous répondez I want black shoes or I want brown shoes, etc. Allez-y.
What color of shoes do you want? What kind of shoes do you want? What size shoes do you want?
Répondez aux questions qui vont suivre en disant ce que vous ne voulez pas. I don't want. Pour ce que vous voulez, rappelez-vous, I want. Pour ce que vous ne voulez pas, I don't want. Je vais vous demander, do you want casual shoes? Voulez-vous des chaussures décontractées ou plutôt ordinaires? Do you want casual shoes? À vous de répondre, I don't want casual shoes. I want dress shoes. Je ne veux pas des chaussures décontractées ou ordinaires, je veux des chaussures habillées. I want dress shoes. À votre tour.
Do you want casual shoes? Do you want heavy shoes?
May I help you?
I'm looking for a shirt.
What kind of shirt? A sports shirt or a dress shirt?
A casual shirt.
You're very tall. What size do you wear?
I wear a large size.
Look at these. Do you like these colors?
Exerçons-nous en faisant des courses dans un shopping mall aux États-Unis. On va aller dans un magasin de vêtements masculins, a men's store, tout d'abord. On ira bien sûr tout à l'heure dans un magasin de vêtements féminins, a woman's store, et dans un magasin de chaussures, a shoe store. La personne qui travaille dans le magasin vous demandera « May I help you? May I help you? Puis-je vous aider? » Vous êtes dans un magasin de chaussures, donc vous allez dire « I want some shoes » ou bien « I need some shoes ». J'ai besoin d'une paire de chaussures. L'assistant vous demandera sûrement « What size shoe do you wear? » Vous chaussez du combien? « What size shoe do you wear? » Vous chaussez du combien? Vous répondrez « I wear size 10 » ou bien « I wear size 11 » ou bien « I wear size 12 ». And that's it for lesson number 48 of English USA. You're now ready to go shopping. Vous êtes prêts maintenant pour aller faire vos achats de vêtements ou de chaussures dans un shopping mall ici aux États-Unis. Practice hard, alone or with friends and family. Exercez-vous, même tout seul ou en famille et avec des amis. Until next time, goodbye.
Voulez-vous mieux parler l'anglais?
C'est fait!
Avec Anglais Télé, notre programme interactif télé multimédia.
C'est à votre tour de parler.
It's your turn to talk.
No, it's my turn to talk.
No, it's their turn to talk.
Mais vous aurez l'occasion d'intervenir en direct.
Et de pratiquer l'anglais avec...
Michel.
Et Roger.
Nous répondrons à vos questions.
Nous vous aiderons à formuler vos phrases. Participez à Anglais Télé.
Retrouvez-nous aussi sur notre groupe Facebook Anglais Télé.
To Anglais Télé, bienvenue à Anglais Télé. We are talking with Issa, who is a Humphrey Fellow. He is a professional journalist from Burkina Faso, and he is here
to fulfill my fellowship here.
Okay,
and so I've already spent almost a year.
Okay,
in an academic program, yes.
Fantastic. So you have been here 1 year.
Yes.
Okay.
English is very practical. You can use, for example, when you take the word get. Get can be used in so many ways.
And actually, English is also creative. You're talking about practical, but by adding adjectives, adverbs, you can transform one verb into many, many, many verbs.
That's right.
Just by adding the extra... pronoun or adjective.
Exactly. It's like up. Up.
Okay.
When you add up or out, you can just change the meaning of an expression.
Okay.
Yeah.
Now, I'm going to ask you, talking about using up, off, on, were you on campus or off campus pour parler de sa vie sur campus universitaire? So I'm asking him, was he on campus or off campus?
I have to say that I was off campus, but I was having my classes on campus.
Okay, very good.
Yep. I was living off campus.
Right,
so
he was living off campus.
Yeah.
Okay, that's excellent. Mm. So how did you adapt? What was your process?
Yeah, you know, it was not easy because, you know, the first things which struck me very well when I arrived in Phoenix, that was the place I've studied all the year.
All right, Phoenix is in Arizona for our listeners,
mm-hmm.
Okay, which is west.
The west coast.
West coast,
yeah.
Of the U.S. and very desert-like.
Very desert.
Okay.
That's the point.
That's not very different from Burkina Faso.
That's the point I wanted to make. In Burkina Faso, it's not that I was not used to a warm weather, but the fact is there I really faced a very hot, not warm, hot weather and a dry one. In Burkina Faso, for example, it's more humid.
Okay.
You see, so it's very different.
So there's dry and hot.
Yeah.
And there's hot and humid.
Yep.
Which is the tropical component, that
mm-hmm.
humidity.
Mm-hmm.
And so that was a challenge for you?
That was a big challenge because, you know, when you sweat.
Yes.
It just disappears at the same time. So it looks like your skin is burning.
Oh, my God.
Yeah,
goodness.
You have a kind of feeling that, oh, my God, you have to look for a place to shelter.
Okay.
You know, in order to avoid being...
Right.
Yeah.
Did you wear any hats?
Roasted by that.
Roasted. Okay.
Et au Afrique.